Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
ChatGPT, Bard, Midjourney, le nombre d'intelligences artificielles génératives explose depuis un an. Fin novembre 2022, la société américaine OpenAI lançait auprès du grand public son chatbot et je suis sûr que vous le connaissez. Il est aujourd'hui mondialement connu, je parle bien sûr de ChatGPT. Cette IA est capable de discuter et de générer toutes sortes de contenus écrits. Son succès a rapidement été planétaire, à tel point qu'une course mondiale à l'intelligence artificielle s'est engagée. Des startups comme des géants de la technologie se sont alors lancés dans le développement d'intelligence artificielle. Microsoft, Google, Amazon, Anthropic, Meta ou encore le français Mistral AI, les concurrents sont de plus en plus nombreux. Le marché de l'IA générative est sans surprise devenu extrêmement attractif pour les investisseurs. D'ici à 5 ans, il pourrait générer jusqu'à 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Mais les enjeux derrière cette technologie ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi sociétaux et sécuritaires. Le monde du travail, vous le constatez peut-être déjà, est bouleversé par l'IA. Les gains de productivité sont énormes, jusqu'à 40%, et peu à peu, les licenciements de travailleurs pour les remplacer par des IA devraient se multiplier. De leur côté, escrocs et hackers utilisent des intelligences artificielles pour améliorer leurs cyberattaques ou bien pour arnaquer les internautes avec de faux chatbots. Ce constat amène inévitablement à des sujets de régulation. Les projets d'encadrement se multiplient, les États-Unis ont par exemple déjà le leur et l'Union européenne négocie actuellement son AI Act. Mais ces réglementations n'arriveront-elles pas trop tard, tant la technologie évolue à une vitesse effrénée? Après une année intense dans le monde de l'IA, à Siècle Digital, nous avons décidé de faire un point sur l'intelligence artificielle générative. Comment ça fonctionne? Quels sont les impacts dans les entreprises? Une régulation est-elle indispensable? Toutes ces questions et bien plus encore, je vais les poser à Nicolas Cavallo, Head of Generative AI chez Octo Technologies. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Nicolas.
Bonjour Grégoire.
Nicolas Cavallo, tu es Head of Generative AI chez Octo Technologies. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation pour parler intelligence artificielle générative, entre autres. Ça va bientôt faire un an, à l'heure où on enregistre ce podcast, qu'une course mondiale à l'intelligence artificielle s'est lancée. Tout a commencé avec GPT, ChatGPT, troisième du nom, qui a explosé aux yeux du grand public en novembre 2022. Et ensemble, nous allons donc faire un petit tour d'horizon de ce paysage de l'IA un an après. Mais avant, j'ai deux petites questions. Qu'est-ce que Octo Technologies et en quoi consiste ton travail au quotidien? Qu'est-ce que le travail d'un Head of Generative AI?
Merci pour cette petite introduction. Donc, Octo Technologies, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans plein de domaines. Et celui qui nous intéresse ici, c'est l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative. Et moi, en gros, mon quotidien, parce que j'avais une spécialisation sur le traitement du langage, et on va le voir, c'est très lié l'innovation qui s'est passée en ce moment sur l'IA générative au traitement du langage. En gros, on accompagne les entreprises à prendre en main un peu cette petite révolution, à faire des tests, à acculturer, parce qu'il y a un gros travail d'acculturation. Et encore, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez récent. Un an, c'est rapide, mais ça va très vite. Et donc voilà, c'est ça un petit peu le quotidien, accompagner toutes ces entreprises dans cette révolution qu'elles essaient de suivre.
Oui, c'est pas une mince affaire en effet, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup de choses à comprendre et à prendre en main. Alors justement, quand on parle IA générative, beaucoup de personnes pensent directement à ChatGPT, mais sans forcément savoir ce que ça implique, ce qu'il y a derrière. Donc avant de continuer, il serait peut-être utile de faire un petit point là-dessus. Qu'est-ce qu'une IA générative? Quelle est ta définition?
Déjà, il faut se dire, dans IA générative, il y a IA, donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'un peu complexe qu'on évoque depuis des dizaines d'années, plus de 70 ans, et c'est un petit peu revenu à la mode. On va le simplifier, on va dire, c'est des modèles qui réalisent certaines tâches.
Ok.
Et donc, la partie IA générative, c'est celle qui réalise principalement des tâches de génération. Alors, génération, du coup, on peut générer du texte, de la voix, de l'image, de la vidéo, donc générer plein de choses, mais on va dire qu'ils sont spécialisés là-dessus. Et bien évidemment, ça a fait plein de choses. C'est juste dans leur capacité de générer du texte, par exemple, pour ChatGPT, qui est le porte-étendard un petit peu de toutes ces IA génératives. C'est ça ce qui le distingue.
Et prenons le cas de ChatGPT, vu que c'est le plus parlant, justement. Comment tu expliques la différence entre ChatGPT et GPT ? GPT, c'est le modèle de langage, la structure, en gros, sur laquelle repose l'IA générative, qu'est ChatGPT.
C'est ça, exactement. Globalement, il faut le voir comme ça. Alors, ça peut être très long d'expliquer, mais c'est...
Oui, j'imagine.
Il y a deux thématiques principales qui sont... Les large language models, on parle souvent de LLM, donc en fait les grands modèles de langage, et là tu l'as évoqué, on parle des fois en français de modèles de fondation, et donc c'est un grand modèle qui a appris en lisant du texte, notamment du Wikipédia, des actualités en ligne, donc tu as cette base, ce grand modèle de langage qui a appris, et on a tendance à l'améliorer, c'est ce qu'on appelle plutôt l'alignement, et on va essayer de faire en sorte qu'il ne prédise pas juste des mots, mais qu'il essaie de répondre à des instructions, répondre à des choses un petit peu plus poussées, ou en tout cas de s'améliorer sur certaines tâches. Et notamment, ChatGPT sur des tâches plutôt de conversation, sur plein d'autres choses aussi. Et du coup, en fait, on l'améliore. Et donc, il y a deux étapes quand on va définir un modèle d'agent conversationnel comme les ChatGPT, c'est quel est le modèle de fondation, ici GPT, et ce qu'on en a fait, donc on l'a souvent dit, on l'a aligné, on l'a rendu un petit peu plus utile. Et c'est ce qui a donné ChatGPT.
C'est tout de suite plus clair. tu as parlé avant, tu as dit, il me semble, que ça faisait 70 ans qu'on parlait plus ou moins d'intelligence artificielle, même si c'est revenu à la mode là depuis quelques mois, voire quelques années, mais que ça faisait 70 ans. D'où viennent les IA génératives? Quelles sont leurs origines?
Je vais peut-être pas revenir aussi loin. En gros, on en parlait depuis Turing, etc., de l'intelligence artificielle en général. Mais... là, ce qui s'est passé, c'est que globalement, il y a eu un petit point de bascule, et je vais dire, c'est un peu l'aboutissement des deux thématiques que j'ai évoquées là tout à l'heure. Ça s'est passé un peu en 2016-2017, donc c'est quand même assez récent. Et je vais plutôt mettre leurs origines, ou en tout cas, on a vu le potentiel à partir de ce moment-là. D'un côté, je reviens sur les LLM, donc sur ces modèles de langage, ces modèles de fondation. Et on a eu en 2017, on a eu la sortie d'un papier, c'est Google qui l'a sorti. Alors, il s'appelait Attention is All You Need, mais c'était qui a introduit les transformers. Et en fait, il faut se dire, ces modèles de langage, c'est comme des Lego. Tu dois construire une architecture et t'as besoin de la bonne brique. Et en fait, c'est en 2017 que ce papier nous permet d'avoir la bonne brique qui nous a permis de créer tous les modèles qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est les transformers. Et pour rappel, dans GPT, le chat GPT, le T, c'est pour transformers. Et pour l'histoire, les Transformers, c'est quelque chose d'assez complexe, mais tu peux le segmenter en deux parties. Alors, ça s'appelle encodeur et décodeur, mais c'est très simple. C'est d'une partie, l'encodeur va résumer ce que tu lui donnes. Pour tous ceux qui connaissent ChatGPT, dans le vocabulaire, quand on discute avec, on dit qu'on envoie du texte. Donc, c'est ce que vous écrivez dans la barre. Souvent, on parle du prompt. Donc, c'est ce que je lui donne. Et donc, ce texte qu'on lui donne, si je reviens à mon encodeur, lui va se charger de résumer cette information-là. Et de l'autre côté, tu as la partie décodeur. Son objectif au décodeur, c'est de générer. Et c'est là où on est sur de la génération. Donc, ça va générer du texte. À l'époque, quand les Transformers sont sortis, donc en 2017, c'était juste pour traduire. On donnait un texte en français, puis il allait le traduire en anglais. Et du coup, il générait les mots les uns après les autres. Donc, tu as ces deux parties. Et ce qui est intéressant d'un point de vue histoire, c'est qu'on est en 2017, puis là, on a commencé à avoir ce qu'on appelle la généalogie des Transformers. Et donc, il y a la communauté scientifique qui s'est intéressée plutôt sur la partie encodeur et qui a fait plein d'architectures, de modèles, et qui était du coup spécialisée sur une tâche. Pour ceux qui connaissent, c'est là où on a eu plein de familles qui sont apparues, notamment les familles qui s'appellent BERT, B-E-R-T. Et donc, quand c'était des modèles plutôt sur la langue française, on était sur des Flaubert ou des Camembert. Hein. Donc, on aime bien s'amuser là-dessus. Et sur la partie décodeur, c'est la génération. Et là, c'est là qu'on retrouve les fameux GPT. Donc, on est en 2018, on a le premier GPT qui sort. Il se spécialise dans la génération de texte. On est en 2018 et on commence à avoir quelque chose d'assez impressionnant. C'est qu'on a un modèle qui est général, donc qui génère du texte, Et puis on voit qu'il est meilleur quand on lui demande, tiens, donne-moi le sentiment de cette phrase, donne-moi, donc, pour résoudre des tâches spécifiques, il est meilleur qu'un modèle qui a été entraîné spécifiquement sur une tâche. Donc, on commence à voir le potentiel, en fait, ces modèles génératifs de texte. En gros, ils sont capables de résoudre des tâches spécifiques.
Là, tu parles de GPT?
GPT-1.
Donc déjà, GPT-1, c'était assez impressionnant, voire presque révolutionnaire. Enfin, déjà, le 1 a fait faire un bond technologique.
C'est ça. Sur cette idée du un modèle, dans le milieu, on appelait ça un modèle général, c'est-à-dire était capable de résoudre plusieurs tâches, mais en fait, général, dans le sens, il était juste entraîné à générer du texte, à prédire le mot suivant, en quelque sorte. Et pour l'histoire, on est 20 ans plus tard, donc on pourra parler peut-être d'OpenAI tout à l'heure, mais sort GPT-2, on est en 2019, et là ils disent, alors, on arrête, on ne le publie pas parce que ça semble trop puissant. On va avoir une capacité à générer du texte trop facilement, c'est peut-être trop puissant, donc on ne le publie plus. Parce qu'à l'époque, tout ce que je dis jusqu'à présent, c'est disponible dans la communauté open source, c'est-à-dire qu'on peut le voir, nous on peut l'utiliser. Et puis, en 2020, apparaît GPT-3, et ce GPT-3, niveau très impressionnant, c'est celui qui est utilisé pour ChatGPT notamment. Donc, on est en 2020. Et donc, là, je t'ai dit, on a tout ce succès, enfin cette effervescence sur ces large language models, donc ces LLM, ces grands modèles de langage, qui ont évolué. Et maintenant, je trouve qu'on est très bon là-dessus, il y en a plein. Et il y a cette autre étape qui s'appelle l'alignement. Là aussi, il s'est passé quelque chose, ça s'est vraiment développé en 2016. Je sais pas si tu te rappelles, c'est la victoire au jeu de Go.
Oui, donc
là,
oui, oui.
C'est Google, encore une fois, hein, qui possède DeepMind. Et là, Google gagne au Go. On s'y attendait pas. Des gens très connus sur l'IA annonçaient ça dans 30, 40 ans, etc., même 2-3 mois avant. Puis on a une victoire au jeu de Go qui était considérée comme trop complexe par rapport aux échecs. On avait la victoire d'IBM 20 ans avant. On a cette victoire-là, et en fait, cette victoire-là, elle est due à des travaux de DeepMind sur ce qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui est très adapté dans ce domaine-là où en fait on fait jouer l'un contre l'autre et puis on voit des choses intéressantes. Il y a même des joueurs maintenant qui commencent à essayer d'apprendre de la machine, qui avaient appris des nouvelles façons de jouer qu'ils ne se voyaient pas. Bref, et du coup à partir de 2016, on a plein de travaux de recherche sur l'apprentissage par renforcement et l'alignement qui est ce que j'évoquais sur ces modèles de langage. Donc la première partie, c'est modèles de langage qui sont bons pour prédire du texte. On essaie de les aligner pour les rendre encore meilleurs, dans un sens, mais pour être plus efficaces, pas juste prédire le mot suivant. L'alignement, la méthodologie principale qui a émergé ces dernières années, sont à base de renforcement, et c'est pour ça que OpenAI, on va en parler, qui est derrière ChatGPT, qui est une des leaders sur ces sujets aussi de renforcement, a été très bon, très bon. Donc sur l'alignement, il s'est également passé des choses à partir de 2016-2017.
Devant tout ce que ça peut faire, c'est assez impressionnant. On va reparler après de l'usage du terme de révolution, mais ça reste extrêmement impressionnant, tout ce qu'est capable de faire cette IA, mais les IA en général, les IA génératives. Est-ce que ça ne te fait pas un peu peur? Même, je sais que tu es un expert du sujet, tu le connais bien plus que moi, mais est-ce que parfois ça ne t'effraie pas un petit peu tout ce qu'on peut faire de bien comme de pas bien finalement avec cette technologie?
Il est évident que c'est impressionnant, même pour des personnes qui sont dans ce domaine depuis un moment. Je vais être honnête, hein, on a tous été impressionnés l'année dernière à la sortie de ChatGPT, alors qu'on forme des personnes sur ces modèles, par exemple GPT-3. Et quand on a vu l'efficacité, même dans notre langue, hein, même au français, on a tous été impressionnés. Et quand on voit tout ce qui se passe depuis un an, on est encore plus impressionnés. Donc, il est clair, moi je vais commencer à te parler de plus en plus de révolution. On voit les potentiels. En fait, on a ouvert plein de portes et on voit que c'est possible. Il y a des choses qui nous bloquent, mais du coup, le champ des possibles est énorme. Donc, le mot de peur, et peut-être on en parlera un peu plus tard sur des sujets, amène à des sujets de régulation qui sont évidents. Il est évident que là, on se retrouve avec quelque chose qui a un grand pouvoir. Donc, comme on sait, ça amène à de grandes responsabilités derrière. Donc, je pense qu'on peut, avoir peur de certaines choses si elles sont mal gérées. Ça, c'est une évidence, parce que on a accès à quelque chose qui peut être très puissant et qui, aujourd'hui, on est capable de montrer que ça fonctionne dans plein de cas. Des fois, on va pas l'utiliser parce que ça va coûter trop cher. Hein, mais il y a aussi des considérations même environnementales, parce que
c'est vrai.
Ça peut consommer et on peut, des fois, on faire tourner pendant des journées utilisées par un seul ChatGPT, mais on utilisait des centaines, voire des milliers, pour faire une simple tâche. Et c'est ça qui donne des choses qui sont assez impressionnantes. Et c'est là où justement on se dit, ah oui, c'est impressionnant. Par contre, c'est bien évidemment pas du tout rentable. Aujourd'hui, on sait qu'on va pas l'utiliser comme ça. Mais pour l'image, quand je donne des formations, je prends toujours l'exemple d'un quelqu'un qui avait publié ça sur Twitter, et c'est vrai que c'était intéressant, qui avait dit, qui avait montré en utilisant ce qui s'appelle un agent autonome, il lui avait demandé, commande-moi une pizza sur Pizza Hut, commande-moi une pizza, et il fait de la livrer chez moi. Et en fait, ça va faire appel à plein de chat GPT, qui va savoir, ah oui, il faut d'abord que j'aille sur le site web, ah, il faut que je crée un compte, et ainsi de suite. Donc, il va faire plein de tâches. Et à la fin, il a réussi à avoir cette pizza. Sauf que ça lui a coûté plus de $1,000 pour avoir cette pizza. Donc, bien évidemment, on sait qu'on va pas l'utiliser comme ça. Par contre, on voit que c'est possible. C'est pour ça hein, qu'on parle beaucoup de régulation, c'est qu'on voit, on commence à voir le champ des possibles et tout ce que ça a ouvert. Donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. Mais je sais pas si je dirais sur « j'ai peur », mais je dirais qu'en tout cas, il faut agir, il faut essayer de réguler, il faut essayer de mesurer ce qui se passe clairement et essayer en tout cas de guider dans la bonne direction.
On reviendra en effet rapidement après sur cet aspect régulation, encadrement. Tu as toi-même employé le mot révolution finalement, donc posons les termes. Est-ce que quand on dit ChatGPT 3, 3.5 ont lancé une course mondiale à l'intelligence artificielle et sont une révolution, est-ce que c'est vrai pour toi ou est-ce qu'on exagère un tantinet?
Je serais peut-être pas le meilleur pour définir à partir de quand on parle de révolution ou pas. Moi, je vais considérer qu'on y est clairement dans le sens où on voit les impacts réels, c'est-à-dire que du jour au lendemain, toute la société, tout secteur, la société, enfants, parents, grands-parents utilisent des personnes qui ont utilisé des outils comme ChatGPT. ChatGPT est le principal. Dans les entreprises, c'est pareil à tous les niveaux, dans les comités de direction, l'ensemble des salariés. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, aujourd'hui, tu vas dans des entreprises même du CAC 40, tu es facilement à 25-50% des salariés qui utilisent, qui au moins à un moment a utilisé ChatGPT, sans des fois sans le dire à son manager peut-être, mais a utilisé ChatGPT à des fins professionnelles. Donc du coup, c'est déjà quelque chose qui est utilisé. Ça a un impact réel. Après, il y a des impacts sur certaines activités qui, on l'a déjà vu, hein, des entreprises qui ont licencié des personnes, ça c'est parce que le métier a considérablement changé, dans la créativité, parce qu'on parle sur le texte, mais on a ces sujets sur l'image, la créativité sur l'image, on a DALL-E, Midjourney, etc., ces outils qui permettent de créer des images. Dans les métiers créatifs, on se pose énormément de questions. On voit les résultats et c'est assez impressionnant. Donc, il y a plein d'endroits où il faut se poser ces questions et on voit que c'est un impact réel dans l'éducation, dans la société. Enfin, dans l'éducation, je pense que on est tous conscients, tous les professeurs sont conscients que ça a révolutionné la façon d'accéder à l'information et bah faut se préparer. On peut plus donner, et ça c'était Elon Musk qui le disait, il disait que ChatGPT avait tué le devoir à la maison. Je pense qu'on y est clairement parce que aujourd'hui ChatGPT, surtout les nouvelles versions.
Oui.
T'as parlé de 3.5, je pense que tu voulais bien mettre en avant qu'on a eu GPT-4 aussi qui est sorti en mars. On a une performance qui augmente tous les X mois. Et aujourd'hui, je pense que les élèves en France, 99% des devoirs maison qui étaient donnés l'année dernière, je suis sûr que GPT-4 est capable d'y répondre et avoir une note supérieure à la moyenne, ça, je suis à peu près sûr.
Ah oui, c'est une certitude quasiment et ça va faire qu'augmenter, sachant qu'OpenAI travaille déjà sur la version 5. Donc oui, ça va faire qu'augmenter. En termes de fonctionnement justement de ces IA génératives, comment tu expliquerais le fonctionnement et la structure? Assis avec le digital, par exemple, on évoque souvent un lien entre cloud et intelligence artificielle, notamment pour expliquer que, eh bien, le cloud permet notamment, la gestion des millions et des millions, si ce n'est des milliards de données nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement des IA. Comment, en résumé, tu expliquerais la structure et le fonctionnement?
Il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a déjà un lien énorme avec, effectivement, souvent on parle des cloud providers, donc ceux qui fournissent ces services cloud, donc principalement, malheureusement, américains, mais qui te donnent cette capacité à gérer à la fois la puissance de calcul et à la fois ces ensembles de données. Pour ChatGPT, il y a eu une phase d'entraînement au départ. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a d'abord eu le grand modèle de langage, puis une méthode d'alignement qui consomme une capacité informatique à un moment. Donc oui, il faut des capacités importantes. Donc ça, c'est souvent les grands acteurs, ou ceux en tout cas qui ont accès à énormément de machines et de capacités de calcul qui sont, on va y revenir, principalement via l'usage de cartes graphiques, donc fournies à 99% par NVIDIA. Donc il y a cette capacité de calcul. J'en ai besoin au début. Et après, il y a à l'usage. On parle souvent d'inférence. Lorsqu'on utilise ces modèles pour l'inférence, c'est à chaque fois que tu écris quelque chose dans ChatGPT, ça fait appel à ChatGPT. Donc ça, c'est un appel. Et bien évidemment, il faut être capable de gérer ces millions, ces centaines de millions, voire ces milliards d'appels. Ces acteurs ont besoin de l'acte. On parle de scalabilité, la scalabilité du cloud. Où, tout d'un coup, il est 8 heures, c'est un pic. Dans la journée, j'ai besoin de 300, 400, 500 machines. Donc j'ai besoin de cette capacité et seuls les clouds le permettent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands leaders sont soit des acteurs du cloud, soit en tout cas connectés avec un cloud, et notamment OpenAI qui est derrière ChatGPT. Aujourd'hui, à partir en grande partie à Microsoft, hein, qui investit énormément, et donc est accolé au cloud de Microsoft. Et du coup, les grands acteurs à côté sont Google avec son cloud également, et AWS qui a investi énormément dans des offres aussi pour fournir ces services-là. Donc il y a besoin de puissance de calcul, de machines, c'est une évidence.
AWS, Amazon Web Services, leader du cloud, mais c'est vrai que Microsoft, grâce aux milliards investis dans OpenAI, on en reparlera à une petite peut-être longueur d'avance. En termes de cas d'usage également, parce que bon, c'est rigolo 5 minutes de poser toutes sortes de questions à ChatGPT, hein, mais vu l'engouement pour cette technologie dans la vie de tous les jours, tu as parlé aussi des usages dans le monde professionnel. On se doute bien que ça va bien au-delà de demander à l'IA de faire quelques blagues. Hein. Concrètement, pour toi, quels sont les secteurs qui ont le plus à gagner ?
Il y a plein d'usages. Hein. Globalement, on peut faire deux choses avec ces types de modèles. Il y a d'un côté générer du contenu, du texte, de l'image, voix, etc. Mais on peut aussi les utiliser, et c'est ce qu'on fait principalement là dans les entreprises, pour leur capacité, et on pourrait en débattre là-dessus, leur capacité à raisonner. Alors leur capacité à raisonner, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, on est en train de les connecter, comme ChatGPT par exemple, ces modèles à des données internes, des bases de données internes, ou à des services. Et globalement, c'est ces deux cas d'usage qui apportent de la valeur en entreprise. Et donc du coup, en entreprise, il faut distinguer deux choses. Il y a l'activité interne et l'activité externe. En gros, quand je dis l'activité interne, c'est on est tous concernés, ça va être donc toutes les entreprises, par exemple en France, t'as les ressources humaines, qui vont utiliser ces types de modèles, soit pour, actuellement, c'est déjà fait, pour générer des fiches de poste, pour recruter, donc qui utilisent, et qui vont ensuite l'utiliser, connecté à leur base de données. Donc ça, c'est possible. Les services informatiques, les DSI, vont utiliser pour leurs développeurs, notamment, ça marche assez bien, ces agents, pour corriger du code.
Oui, sacré gain de temps.
Et c'est un sacré gain de temps, et surtout, chez des sujets de bugs, c'est des sujets de sécurité aussi. Si tu ne le fais pas, ton concurrent le fait. Fais attention parce que ça, et aussi des personnes qui peuvent t'attaquer sont au courant de ces failles. Donc, il faut le faire. Et sur les sujets de développeurs, on travaille beaucoup sur les assistants de code. Donc, il y a plein de cas d'usage en interne qui, presque chaque entreprise, qui a ça. Et ensuite, tu as ce que j'appelle en externe. Donc là, ça dépend de l'activité de l'entreprise, donc du secteur. Donc, si on prend par exemple le commerce ou l'e-commerce, il l'utilise beaucoup pour le marketing, c'est-à-dire créer des fiches produits. En ligne, souvent on appelle ça le SEO, il faut être visible sur Google par exemple. Aujourd'hui, Google est encore leader dans la recherche. Et aujourd'hui, j'avais des personnes qui créaient du contenu, des fiches produits. Aujourd'hui, elles sont automatisées via ces types de modèles qui vont essayer de créer des fiches produits avec les bons mots pour être visible en ligne. Et tu vas aussi avoir des campagnes publicité, comme on le voit, hein, pour ceux qui ont utilisé les outils qui génèrent des images. C'est impressionnant la qualité. Donc tu vas avoir. Il y a certains acteurs qui commencent à créer des pubs comme ça, mais on peut aussi créer, parce qu'on peut générer de la voix, des pubs sur les podcasts, sur la radio, de façon automatique. Ça peut être avec ma voix, ça peut être avec la voix de quelqu'un de connu, et ça peut être des vidéos ou des audios très spécifiques. C'est une nouvelle façon de faire de la publicité qui est utilisée. Donc, il y a un travail aussi de créativité aujourd'hui. Donc, tu as un peu ces deux faut se poser ces questions-là à plusieurs niveaux. Et donc, en gros, en externe, ça dépend de l'activité, ça dépend du secteur.
Ça veut aussi dire que vraiment, la plupart des secteurs, au final, vont être concernés, même finalement le journalisme. Mais ça prouve bien que même pour la voix, tu le disais, et la vidéo, l'IA générative va apporter énormément au monde professionnel.
Ça, c'est... Sur la vidéo, c'est l'étape d'après. On n'y est pas encore sur une qualité.
On n'y est pas encore, ok.
Mais encore une fois, hein, souvent dans les présentations qu'on fait, on montre l'évolution qu'on a eue dans l'image. Si je te remontre une image qui était généré il y a 2-3 ans, on n'y croit même pas tellement c'est mauvais par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
Oui, donc mais aujourd'hui aussi, il y a quand même... on arrive quand même à distinguer la plupart du temps les images générées par IA. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Il y a encore des progrès à faire, ça c'est sûr. Mais c'est toujours... on voit la progression et c'est là où on est assez impressionné. Et sur la voix, on a eu une année assez impressionnante de progression sur la capacité à capter la voix et à utiliser le même timbre de voix pour faire dire ce qu'on veut. Et il y a plein d'exemples. Nous, on l'a dit à des entreprises, attention, c'est une révolution aussi dans le sens où il faut se poser les bonnes questions sur la sécurité. Il y avait le cas d'un journaliste très intéressant en février qui avait montré parce qu'aux États-Unis, tu pouvais te connecter à ta banque en utilisant ta voix. Sauf qu'aujourd'hui, ce journaliste avait montré, il avait pris une vidéo de lui d'une minute en ligne et il était capable, via un modèle de génération de voix, de copier sa voix. Et du coup, il était capable de parler avec sa banque et il a été capable de se connecter à sa banque en utilisant son modèle. Donc, ça voulait dire, l'entreprise, les banques devaient se dire que, ah non, aujourd'hui, je ne peux plus faire confiance à la voix.
Oui, mais c'est ça, c'est là aussi que c'est un peu effrayant, finalement. Il y a des risques.
Notre société n'est pas encore prête à ça. C'est le « je ne peux ». Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à du texte. On n'a jamais vraiment fait confiance à du texte. Mais on faisait confiance à de l'image ou à de la voix ou à de la vidéo. Et là, il faut se préparer à ça. Demain, on ne pourra peut-être plus faire confiance aveuglément, en tout cas, à la voix, l'image et la vidéo.
Oui, on le voit avec de malheureux événements comme la guerre en Ukraine, mais aussi il y a des vidéos... où des voix d'artistes sont superposées sur le visage d'autres artistes. Et c'est assez impressionnant aussi, ça fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment. Parlons maintenant un petit peu de la commercialisation de cette technologie, maintenant qu'on sait un petit peu ce que c'est et que tu nous as éclairé là-dessus. Toutes les entreprises du monde commencent à s'intéresser à cette technologie. Certaines sont celles qui sont à l'origine des IA, elles les créent, elles les forment. D'autres sont plutôt du côté des investisseurs, comme Microsoft, par exemple, et ses dizaines de milliards investis dans OpenAI. D'autres sont de simples clientes qui cherchent des IA à intégrer dans leurs services, en interne ou en externe. Parlons pour commencer, si tu le veux bien, des sociétés derrière cette technologie. On a beaucoup parlé de GPT depuis le début de l'interview. C'est l'américain OpenAI qui est derrière, fondé par plusieurs grands noms de la Silicon Valley, dont Sam Altman, son actuel PDG, mais aussi Elon Musk, que je ne présente plus, aujourd'hui bien loin de cette société. Ma question est la suivante, pourquoi OpenAI? Comment expliquer la réussite de cette entreprise? Comment elle a réussi à se démarquer? Par quelle stratégie? Et parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que en termes d'élaboration d'IA, c'est peut-être le leader.
Oui, je pense qu'on peut le dire, ça va aller très vite. On ne sait pas si ce sera OpenAI à l'arrivée, mais le premier. Mais globalement, le succès d'OpenAI, ça se résume à... Il y a de l'argent, mais aussi une très bonne équipe. Je pense que c'est clairement la meilleure équipe sur cette thématique. En gros, de l'argent, tu l'as évoqué. C'est Microsoft aujourd'hui, mais dès le départ, il y avait déjà un milliard de dollars en 2015. Donc, il y avait de l'argent. Et cette équipe, c'est clairement l'une des meilleures. Et ça, c'est vu parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ils ont beaucoup publié, alors sur des sujets de modèles de langage, mais aussi sur les sujets d'apprentissage par renforcement, ils publiaient en ligne. Donc, on a plein de papiers et on voyait qu'ils étaient globalement leaders. Les autres très bons, c'est Google, ça s'est vu. Ils ont notamment parce qu'ils possèdent DeepMind. C'est globalement les deux équipes. Il y a aussi Meta. Voilà, c'est les leaders. Et donc, OpenAI a des gens qui sont vraiment très, très, très compétents. Peut-être parce qu'au début, ils avaient une image d'ouverture, mais en tout cas, ils avaient vraiment c'est assez clairement les meilleures équipes du monde, on peut clairement le dire sur ces thématiques.
Ok.
Ils avaient tout ce qu'il fallait pour le succès. Et donc là, on a clairement eu.
Je voulais aussi avoir ton sentiment sur une chose, c'est que OpenAI, c'est toujours bon de le rappeler, à l'origine, c'était une structure à but non lucratif. Aujourd'hui, on voit que la société cherche le profit, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas inévitable pour la recherche finalement, pour continuer de toujours entraîner et élaborer de meilleures IA, des IA plus avancées, et aussi parce que ça coûte extrêmement cher. C'est ça aussi dont il faut bien se rendre compte. Entraîner et faire tourner des intelligences artificielles, ça coûte extrêmement cher. Donc, est-ce que c'est pas inévitable finalement d'être dans une course au profit?
C'est une question compliquée. C'était le message d'OpenAI. Mais finalement, on n'a pas le choix. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont beaucoup plus fermés, voire qu'ils sont totalement fermés, alors qu'au départ, ils publiaient tout.
Tu regrettes, par exemple, toi, ce côté fermé qui est arrivé maintenant?
À notre niveau, oui, on peut que regretter, parce que on va parler justement un peu de cette opposition à l'open source, qui du coup a été pris plutôt par Meta, par les équipes de Meta, qui publient aujourd'hui beaucoup en open source, qui ont un petit peu comblé ce vide qu'a créé OpenAI en arrêtant de diffuser tout ce qu'ils font. Globalement, oui, on regrette, parce que on se retrouve avec quelque chose qu'on ne peut plus vraiment utiliser, qu'on ne maîtrise pas, et on voit le pouvoir qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il y a deux courants de pensée entre il faut diffuser ouvertement et ça va faire grandir. Alors oui, ça donne accès à quelque chose de très puissant à beaucoup de monde, et l'autre qui là, on va plutôt fermer. C'est compliqué. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut de l'argent. Comme tu l'as dit, il faut beaucoup d'argent. Et le truc, c'est qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent. Microsoft en fait partie, ils ont des dizaines de milliards de dollars de trésorerie, donc ils ont beaucoup d'argent. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est plus une question de part de marché. Donc, ils investissent pour être omniprésents et leaders sur ces thématiques, sans doute un petit peu à perte, aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais par contre, c'est clairement grâce à ça, grâce à cet argent, qu'on arrive à construire ces solutions qui fonctionnent aujourd'hui avec cette capacité. Voilà. Par contre, il faut le dire clairement, c'est question de part de marché. Ces entreprises perdent de l'argent. Il y en a quand même quelques-unes qui en gagnent. Hein. Souvent, on met l'image de, c'est un peu comme la ruée vers l'or. À l'époque, c'est ceux qui se sont fait de l'argent, c'est ceux qui vendaient des pioches. Là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un peu les clubs, mais celui qui se fait vraiment de l'argent, c'est Nvidia. Et tu le vois à son cours de bourse, c'est celui qui vend les cartes graphiques. Et en gros, ces modèles, ils ne marchent que sur des cartes graphiques.
Oui, et c'est donc, justement, j'allais venir, Nvidia qui est le leader des GPU, des cartes graphiques pour intelligence artificielle, qui vient d'ailleurs d'annoncer son nouveau GPU H200, et avec le but clairement de rester leader dans ce secteur. Hein. Est-ce que c'est pas un danger d'avoir une telle dépendance à une seule entreprise qui, Nvidia, c'est plus de 95% du marché, hein, de part de marché des GPU pour intelligence artificielle, et c'est une entreprise qui est devenue une machine à cash grâce à ses GPU, à l'explosion de ce secteur, avec une valorisation boursière à plus de 1000 milliards de dollars.
Bah, c'est évidemment dangereux, mais les entreprises n'ont pas le choix aujourd'hui. Donc elles y vont, et elles n'ont pas le choix dans le sens où même, en fait, Nvidia a cet effet prix, c'est-à-dire que on accepte de payer ses produits à un prix qui peut paraître exorbitant et où Nvidia gagne énormément d'argent, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et donc ça consomme beaucoup moins pour des résultats de calcul, bien meilleurs. Donc en fait, les entreprises, que ce soit les grands services de cloud, mais même toutes les entreprises qui veulent utiliser ces modèles en interne, sont dépendantes. Tous les services de l'État, hein, sont dépendants d'Nvidia parce qu'ils ont besoin de ces cartes graphiques pour faire tourner ces modèles à des prix acceptables.
Oui, c'est vrai, indirectement, ils sont dépendants, on n'y pense pas, même si ça va peut-être pas durer cette dépendance et cette domination aussi de Nvidia, parce que ce soit des entreprises comme AMD ou même Microsoft développent des puces pour réduire cette dépendance.
C'est ça, tous les acteurs des clouds, etc., ça fait plusieurs années qu'ils essaient de développer des puces concurrentes, mais aujourd'hui, Nvidia est encore leader, et donc là, on est quand même plutôt sur des choses complexes, donc ça va pas arriver du jour au lendemain. Nvidia, c'est pour ça que Nvidia vaut beaucoup en bourse. C'est qu'on imagine un avenir radieux, en tout cas pour les prochaines années, pour Nvidia.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas. L'avenir a l'air radieux à court terme, au moins pour Nvidia, avec 1000 milliards de valorisation boursière. Il n'y a pas trop à se plaindre, c'est sûr. OpenAI a lancé des offres d'abonnement, dont ChatGPT Plus, à $20 par mois, ce qui donne accès à une meilleure version de GPT, entre autres choses. Est-ce que c'est pas là l'enjeu principal actuellement pour les créateurs, pour ce secteur de l'intelligence artificielle, réussir à rendre rentable finalement la création d'intelligence artificielle plus que la dépendance à Nvidia, développer ses propres puces? Est-ce que l'enjeu principal, c'est pas de rendre ce secteur rentable?
À long terme ou même à moyen terme, oui. Mais encore une fois, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aujourd'hui, par exemple, OpenAI, qui appartient en quelque sorte à Microsoft, son objectif, c'est de la part de marché. C'est d'être dans cet environnement, d'être le futur Google dans un sens sur l'accès à l'information, sur la façon dont on processe l'information. Et Microsoft, derrière, je l'évoquais tout à l'heure avec Nvidia, mais Microsoft gagne de l'argent aussi avec la vente de son cloud, de ses services cloud. à ces entreprises. Parce que les entreprises ont dit « Ah oui, je veux utiliser OpenAI », du coup, ils utilisent un service cloud plutôt de Microsoft. Et donc, Microsoft a sorti des bons chiffres hein, sur son service cloud qui s'appelle Azure. Et c'est, on parle de milliards de dollars facilement. Donc, il y a un effet un petit peu derrière. Donc, c'est pas obligatoirement via ce 20 dollars par mois de l'offre de ChatGPT. OpenAI gagne de l'argent. Hein. Je crois qu'on est à 1 milliard de chiffre d'affaires cette année grâce à cela. Mais c'est possible que la consommation derrière soit encore supérieure à ce 20 dollars par mois. Par contre, en un an, on a divisé globalement par 10 à 20 le coût de ces modèles via des optimisations à la fois hardware, mais à la fois méthodologiques, de façon de faire. Il y a plein de méthodologies pour essayer de réduire le coût de l'usage de ces modèles. Donc, il y a une question de, OK, au pire, si c'est pas rentable, peut-être que c'est allé dans 6 mois parce que on voit qu'on est en train de s'améliorer. C'est plutôt un objectif de part de marché d'être le plus visible avec ces OpenAI, comme l'a sorti, l'a annoncé, d'être à 100 millions d'utilisateurs actifs par semaine, pardon. C'est ça, sont actuellement les chiffres qui sont publiés il y a 10 jours. Donc, son objectif, c'est d'être omniprésent. Et du coup, quand tu vas accéder à l'information, tu vas passer par OpenAI. Et ça va se passer de la même façon que Google. C'est-à-dire que Google, pour nous, a toujours été gratuit, mais Google, c'est des dizaines de milliards de bénéfices derrière. Parce que il y aura une façon de rentabiliser différente derrière.
Oui, c'est d'autant plus vrai que Sam Altman a récemment déclaré au Financial Times que OpenAI n'était pas rentable encore, mais que ça l'alarmait pas plus que ça, que dans tous les cas, il était quand même gagnant et que Microsoft aussi était quand même gagnant. Ça, c'est pour les sociétés qui créent et qui permettent le fonctionnement de ces IA. Mais il y a aussi les sociétés qui souhaitent intégrer de l'IA générative à leurs services pour leurs employés. Énormément d'entreprises aujourd'hui veulent et ont intérêt, on en a déjà parlé, intégrer de l'IA générative. Comment faire? Parce que ça a l'air simple dit comme ça, mais comment on fait? Parce que si on ne s'y connaît pas plus que ça, il faut peut-être recruter quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des métiers déjà qui existent dédiés à l'intégration en entreprise d'IA générative?
Oui, il y a des métiers, mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que bon, les entreprises, elles sont à des niveaux de maturité un peu différents, mais depuis un an, elles ont toutes au moins fait des travaux d'acculturation à cette thématique et elle continue parce que, comme je l'ai dit, les salariés l'utilisent déjà au final, même si on leur a des fois pas dit de l'utiliser, ils l'utilisent déjà, donc il faut acculturer les salariés et même les experts pour monter en compétence sur ces nouveaux métiers. Et après, il y a les usages, donc les entreprises, elles se posent des questions de quels usages et elles commencent à les tester. Elles sont en train d'intégrer ces sujets d'IA générative, soit elles les utilisent via ces outils externes, soit elles sont en train de faire des solutions spécifiques. Et donc, du coup, elles ont besoin de nouveaux métiers. On a parlé du prompt engineer, donc ça c'est dans l'usage, comment je requête en quelque sorte ces modèles, comment je leur parle, la façon de leur parler. Et puis, on a des métiers aussi, ce métier de LLM engineer, donc cette façon d'orchestrer ces modèles, parce que en fait souvent tu vas pas mettre un seul modèle, tu vas en mettre plusieurs qui peuvent discuter entre eux. Et donc oui, il y a des métiers qui évoluent très vite. On est en train de même d'évoquer par exemple le prompt engineer, on est en train de déjà dire qu'il est peut-être en train de se faire disrupter parce que les modèles se parlent déjà entre eux. Donc c'est un modèle qui est en train d'écrire le bon prompt, comme on dit, qui permet de générer la tâche.
Oui, ça va très vite. Oui.
Donc ça va très vite. En gros, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas investir trop, ça ne sert à rien si l'entreprise n'a pas la base. La base, c'est évidemment déjà la donnée, c'est-à-dire un système d'information qui tient la route, parce que sinon, tu vas rien pouvoir faire construire en interne. Et la base la plus importante, bien sûr, c'est l'humain. Donc, c'est différents métiers, mais qui des fois, les entreprises ont déjà en interne des data scientists, des experts un peu ops, qu'il faut juste un petit peu former, ou alors ils se sont formés par le propre moyen pour essayer de maîtriser ces outils qui ont émergé depuis 1-2 ans et qui se structurent via la communauté depuis 1 an et depuis ChatGPT très 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 rapidement.
Quel est pour toi le plus gros impact dans le monde professionnel quand on utilise une intelligence artificielle générative? Il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, notamment une de Harvard récente qui parle d'un gain de productivité jusqu'à 40% dans la plupart des métiers qui utilisent par exemple ChatGPT. Ça peut faire énormément à notre place, des présentations codées, des mails, des textes. Les possibilités semblent presque infinies. Pour toi, quel est le plus gros impact? C'est ça, c'est cette augmentation de la productivité?
Oui, et comme tu l'as dit, c'est dans plein de domaines différents. Moi, je suis consultant. Oui, aujourd'hui, tu peux automatiser la génération de slides, contenu automatiquement. Je suis aussi développeur. Pour les développeurs, les assistants de code, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Tous ceux qui m'ont testé disent « Ah oui, c'est impressionnant. » Ça génère du code comme on l'imagine. Pour tous ceux qui utilisent des outils comme Gmail, les docs, les outils bureautiques, on commençait à avoir les outils, ce qu'on appelle d'auto-complétion. Tu sais, on appuie sur une touche et puis ça nous propose le texte qui va suivre. On a la même chose sur le code et c'est assez bluffant. Et on voit que ça s'améliore. Donc, oui, clairement, ça augmente la productivité. Par contre, ça pose des questions de société. Même pour nous, les développeurs, avant, tu avais une structure où tu avais peut-être besoin d'un senior et de peut-être 4, 5, 6 juniors parce qu'il faut créer beaucoup de code, etc. Et le senior, il n'a pas tout le temps, mais comme ça permet aussi de former les juniors. Mais là, avec cette productivité qui améliore fortement le senior, peut-être que sur la création d'une application, tu n'auras plus besoin de cette pyramide. Et donc, du coup, tu n'auras peut-être besoin que d'un seul senior et plus besoin de plein de juniors. Et donc, ça pose un peu des questions de mais comment en société on se prépare à ça? Comment des personnes plus juniors se forment à ces thématiques? En tout cas, dans la réalisation d'une tâche spécifique, c'est possible qu'on la fasse de façon différente dans les prochains mois ou prochaines années parce que, effectivement, on...
Oui, des questions finalement de licenciement, de vagues de licenciement.
Et ça, c'est un sujet, clairement, ça a un impact où il faut il y a des endroits où c'est une assistance, claire. Mais le problème, c'est que ça, pour des entreprises, elles se retrouvent à avoir un business qui a changé et se poser des questions. Aux États-Unis, il y a eu un peu plus de licenciements. En France, on a eu quelques histoires. Il y en a une, il me semble, à Courbevoie, ou qui était associée à tout ça. Il y a effectivement des cas d'usage où ça s'automatise quasiment totalement. Donc, il y a une redirection des tâches qui sont réalisées par les personnes qu'il faut faire très rapidement. Et donc, du coup, oui, là, certaines activités qui sont aujourd'hui pas si importantes que ça, mais qu'il faut se poser des questions parce que du jour au lendemain, on se retrouve avec un outil qui, pour certains, automatise à 99% la tâche. Donc, comment on la réalise? Est-ce qu'on réalise autre chose? Donc, oui, ça touche à l'emploi assez clairement. Ça crée des emplois aussi. Hein. Le problème de cette révolution, c'est quand ça va trop vite. C'est qu'il faut le temps de s'adapter, le temps de en tout cas, d'adapter son travail et les tâches qu'on réalise avec les nouveaux outils qui sont disponibles. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de suivre, se former à toutes ces thématiques. En tout cas, ça, c'est important.
Tu faisais peut-être référence au plan social de Onclusive qui a annoncé il y a quelques temps et qui a été reporté le 19 octobre, qui, justement, près de Paris, a prévu de licencier une partie de son personnel avec notamment une présence renforcée de l'intelligence artificielle qui fait gagner en productivité et en réduction des coûts aussi. C'est aussi ça pour les entreprises d'intérêt. C'est-à-dire que moins d'employés, plus d'intelligence artificielle, c'est aussi moins d'argent dépensé.
C'est ça. Après, il y aura clairement, comme toujours, il y a des entreprises où c'est un effet d'aubaine, c'est une raison utilisée pour licencier. Mais il y aura effectivement des domaines où, comme je le disais, dans les activités externes de l'entreprise, ces types de modèles vont peut-être concerner 80% de l'activité, 90%. Donc, les questions vont se poser assez vite. Et tu avais l'histoire que tu avais aussi aux États-Unis, une entreprise de vente de cours à domicile. Et en fait, ils ont perdu, je crois, du jour au lendemain, ils ont perdu 50-60% en bourse. Là, parce qu'en fait, leur activité baisse fortement parce que beaucoup d'élèves avaient tendance à utiliser le ChatGPT, qui était accessible gratuitement. Hein. Il y a un coût derrière, mais c'est gratuitement, pour répondre à des questions et marcher plutôt bien. Du coup, ils vendaient beaucoup moins de cours à distance.
Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, on arrive à la fin de cet épisode, mais par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début de cet entretien, j'ai l'impression que pour toi, alors tu vas peut-être me contredire, mais que pour toi, le plus gros défi à venir pour le secteur de l'intelligence artificielle, c'est l'encadrement, la réglementation. Il y a beaucoup d'acteurs qui se penchent là-dessus. Hein. Il y a le AI Act européen qui est en préparation. Les Américains ont présenté un encadrement, l'un des premiers au monde, il y a quelques semaines. Le Japon souhaite harmoniser les règles au niveau mondial, mais notamment au niveau du G7, avec des recommandations sur la base du volontariat. Bref, il y a beaucoup d'initiatives. Est-ce que c'est ça le plus gros enjeu pour l'intelligence artificielle, la réglementation?
Pour la société, oui, c'est clairement un des plus gros enjeux où je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années aussi. Par contre, tu l'as un peu évoqué, ça va être, c'est une régulation qui doit avoir lieu à un niveau mondial parce que ça nous concerne tous et il y a ce sujet qui est souvent évoqué du réguler mais pas trop parce que ça peut nuire à l'innovation. Et aujourd'hui, en gros, t'as un petit peu cette guerre entre deux courants de pensée où il faudrait plus de régulation parce que ça a un grand pouvoir, ces modèles, et d'autres, moins de régulation, il ne faut pas en avoir peur. Et en fait, ces deux courants de pensée s'opposent, et c'est des grands lobbyistes qui défendent ça. Et comme souvent. Tu as d'un côté, et ce qui est intéressant, c'est que tu as ceux qui défendent plus de régulation, c'est pas ce qu'on croit, c'est plutôt Google et OpenAI. Et puis, de l'autre, c'est plutôt des acteurs de l'open source, notamment qui est... Alors, Meta défend beaucoup l'open source, notamment via le français Yann Lequin. Et il y a un petit peu une guerre en ce moment, en mode... mais ceux qui demandent plus de régulation, c'est pour empêcher à l'open source d'émerger, ou c'est ceux qui ont déjà un peu d'avance. Et donc, c'est
un peu vrai.
C'est vrai. C'est une évidence. Et donc, du coup... on ne sait pas trop ce qui va vraiment se passer. Donc, il y a la régulation. Et puis, après, il y a les peurs de ce qu'on peut faire avec ces modèles. Aujourd'hui, donc, en Europe, les AI Act qui devraient être adoptés fin d'année, normalement. Mais après, ça prend du temps à prendre effet. Hein. C'est normalement 2 ans. Donc, ça peut être un peu long. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises, OpenAI a surpris, notamment, ça, c'était assez intéressant, ils ont annoncé un bouclier copyright, où ils ont annoncé qu'ils allaient payer tous les frais si leurs clients, les clients qui payent, font face à des poursuites judiciaires sur ces types de modèles, l'usage de ces modèles. Il y a des choses qui bougent sur cette thématique, même par les entreprises, hein, des entreprises qui ont des milliards. La régulation, en gros, on ne sait pas trop où elle va aller. Et étonnamment, je trouve, et on est assez étonné, c'est pas si sûr que l'Europe soit en avance. Alors qu'à l'époque, notamment avec le RGPD, tu l'as évoqué, hein, les États-Unis ont sorti quelque chose, le Royaume-Uni essaie d'être un petit peu leader sur cette thématique.
Oui, ça reste des encadrements qui sont pas extrêmement stricts non plus. Et l'Union européenne, avec une approche basée sur le risque, selon beaucoup d'autres nations même, une approche plus stricte quand même. On se dirige peut-être malgré tout vers un encadrement plus strict. Hein.
Sans doute. Mais comme je l'ai évoqué, si on, dans l'état actuel des choses, le problème, c'est que ça serait peut-être un peu trop tard. Parce que même si c'est adopté en fin d'année, il faut un effet 2 ans après. Et en 2 ans, il se passe des choses.
Mais vu comme
donc
ça va vite.
C'est plutôt ça la problématique. Après, il faut quand même retenir un truc, c'est que le RGPD existe et impacte un petit peu ces modèles. Parce que des fois, ces modèles concordent de la donnée personnelle et donc, il y a des sujets de droit à l'oubli qui peuvent être concernés par ce type de modèle déjà aujourd'hui. Donc, il y a des fautes de la régulation.
Dernière question. Pour toi, une réglementation, ça n'impacterait pas, ça ne nuirait pas à l'innovation sur l'intelligence artificielle?
C'est toujours la question, hein, notamment en Europe, sur le fait qu'on soit en retard par rapport à ces grandes autres entreprises, principalement américaines, qui dirigent, qui dominent sur cette thématique. Mais par contre, ce que je pense aussi, c'est que ce qui peut nuire encore plus, c'est si on ne fait rien. Si en tout cas, pas grand-chose. En tout cas, il faut essayer de comprendre et de mesurer. Hein, et j'ai vu une citation de quelqu'un qui était assez intéressante qui demande qu'on ait un peu la même chose qui se passe sur le GIEC, d'avoir un peu des chercheurs, une communauté qui essaie d'évaluer où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, pour comprendre vers où on va et pour essayer d'éduquer aussi toute la population cette thématique. Parce que ça va très vite. Ça peut nuire à l'innovation, c'est possible, mais en tout cas, je pense que ça peut encore... plus lire, ça ne fait rien.
La création d'un groupe de travail à l'image de ce qui se fait avec le GIEC pour le climat, c'est en effet une idée qui a été notamment mise en avant par le Royaume-Uni lors du sommet mondial sur la sécurité de l'IA. Une idée intéressante, c'est vrai. Merci pour tes éclairages et ton expertise et tes explications très détaillées sur l'IA générative, Nicolas.
Merci.
Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Dans cet épisode, nous n'avons pas évoqué, vous l'aurez remarqué, l'affaire du licenciement de Sam Altman et de son retour à la tête d'OpenAI. L'interview ayant été enregistrée peu de temps avant. Mais si vous voulez tout savoir sur cette saga, je vous renvoie vers les épisodes de notre émission quotidienne, Signaux Faibles, du 20, 21 et 22 novembre. N'oubliez pas de vous abonner, tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.